Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Les Jeux Olympiques d'été, c'est du 23 juillet au 8 août. Le cycliste Florian Grandbeau y portera les couleurs de la France pour la première fois. Nous l'avons reçu dans nos studios avant son départ pour la préparation.
La JL Bourg a retrouvé son public à Equinox. Reportage.
L'USBPA monte en Pro D2, on en parle avec son entraîneur.
Et les seniors font du sport, exercice à Bouvan. Alice, notre stagiaire, était sur place. C'est tout de suite dans l'actu en bref.
Bourg en bref.
Le premier tour des élections départementales et régionales, c'était ce dimanche.
Et le taux d'abstention est record. Le premier tour a été déserté par 2 électeurs sur 3. Globalement, le Rassemblement national perd des points par rapport à l'élection de 2015 et le parti La République En Marche n'arrive pas à s'implanter localement. Pour ce qui est de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez est en tête avec plus de 40% des suffrages exprimés, suivi par Fabienne Grébert d'Europe Écologie Les Verts avec 14%. Le Rassemblement national fait 12% et le Parti socialiste 11%. Les partis ont jusqu'au 22 juin soir pour faire des alliances entre les listes. Côté départemental, dans l'Ain, c'est la droite qui est en tête dans de nombreux cantons, comme à Bourg 1 avec Alexis Morand et Hélène Bertrand-Maréchal. La gauche est aussi en tête dans 3 cantons avec Vona, Valseronne et Bourg 2 avec Isabelle Mestre et Patrick Bouvard. Le Rassemblement national espère lui encore avoir une place au conseil départemental. Le second tour des départementales et des régionales, c'est ce dimanche 27 juin.
De l'avance dans le calendrier des mesures sanitaires.
Suite au Conseil de défense du 16 juin, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures allégeant les restrictions sanitaires. Le port du masque n'est désormais plus obligatoire en extérieur et le couvre-feu est abrogé.
Laurent Wauquiez était en visite à Bourg-en-Bresse la semaine dernière.
Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en campagne a effectué mardi 15 juin un déplacement sur le campus universitaire de Bourg-en-Bresse. Accompagné de Jean de Guéry, président du département, ils ont annoncé la création d'une première année de médecine en 2022.
Les seniors font du sport. Alice, notre stagiaire, était sur place.
Le service Action Sportive de la mairie de Bourg-en-Bresse leur a organisé mardi 15 juin un parcours d'orientation au parc de Bouvan. Cette activité a permis de retrouver du lien tout en faisant de l'exercice physique.
Attention, 4, 3, 2. Donc ici on va juste rajouter le bras. Hop. Aïe aïe aïe. Restez avec moi, voilà, on tire. On tire, voilà.
Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Donc à partir de 10h, vous pourrez partir. On va vous donner vos roadbooks, vos carnets de route. Et on va vous faire partir pour commencer le jeu de la course d'orientation. Le but est de reconstituer une chorégraphie qui est divisée en 5 éléments dansants. Donc le but, c'est de retrouver les 5 bons éléments dansants parmi la liste de symboles que vous avez sur votre carnet de route. Donc l'objectif, c'est de se retrouver tout le monde ici à 11h45 pour réaliser tous ensemble, faire un petit flash mob en respectant la distanciation, bien sûr, de la chorégraphie qu'a créée Régine. Voilà.
Petit point bleu.
Table blanc.
Ah, bah les petites tables là, bah c'est ça. Il faut encore les passer, tu crois?
Bah c'est après.
Bah oui, bah c'est juste après. Bah c'est bien ce que. Ouais, oui, c'est bon. Ça.
Qu'est-ce que vous pensez de cette activité?
Moi je trouve qu'elle est très sympa, on s'amuse bien.
Très intéressante, c'est la première fois que je fais une course d'orientation et c'est très bien.
Bon,
un peu chaud, mais très bien.
Vous êtes heureuse de retrouver un peu de monde?
Voir du monde et puis sortir et puis faire des activités.
Si, il y en a une là. Ils ont débroussaillé.
Moi, je pense que c'est ça.
Ah, c'est ça. Oui, c'est
4-0-F.
Ça. 4-0-F. Elle est carrément au pied de l'arbre. 4-0-F. Ouais, on était allé trop loin, c'est bien ça.
Bonjour, Hélène Mudry, responsable de mission du Grand Bouvan.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le principe de cette activité?
C'était pour essayer de recréer du lien entre toutes ces personnes qui avaient été éloignées pendant tous ces longs mois et qui ont vraiment besoin de recréer à la fois une mobilité articulaire, mais aussi de se recréer un lien social et de retrouver des points d'activité et de prendre plaisir à rebouger en fait.
Est-ce que vous avez constaté avec l'épidémie du Covid une sédentarité plus prononcée, un manque d'autonomie chez les seniors ?
Tout à fait. On peut dire que sur ces derniers mois, ça a été encore un peu plus dramatique parce que autant on sentait beaucoup d'envie il y a encore un an, les gens ont été extrêmement déçus quand on a arrêté toutes les activités et là, il n'y a plus cet engouement et les personnes se sont peut-être un petit peu sédentarisées, se disent qu'elles ne vont plus y arriver, n'ont plus la volonté de sortir. Franchement, on espère que ça va revenir et c'est en faisant des actions comme celles qu'on a menées aujourd'hui qu'on espère vraiment les réhabituer à sortir, à voir du monde et à bouger, se mobiliser parce que c'est comme ça qu'on reste en bonne santé.
Et on garde toujours nos claques pour garder notre bonne humeur du bon matin, il y a du soleil et on garde le sourire. Voilà!
Une nouvelle journée à destination des aînés sera organisée par l'Action Sportive le 29 juin et se tiendra également à Bouvant. Cette activité n'est pas la seule proposée par la mairie. En effet, tous les week-ends, des séances de sport gratuites sont proposées, adaptées à tous les âges.
Une nouvelle association pour collecter des affaires de sport.
Son nom, Passe et Va. Elle a été créée par Sébastien Sordet en janvier 2021, un kiné à Bourg-en-Bresse, avec son ami Guillaume Drouet. L'association collecte puis revend des vêtements et du matériel de sport. Sébastien Sordet nous explique.
On cherchait en fait un concept tourné vers l'écologie et aussi tourné vers le sport. Parce qu'on trouve que parfois, le monde du sport, qui représente des belles valeurs de respect, d'entraide, parfois n'est pas vraiment en phase avec le côté écologique et toutes les valeurs qui vont avec.
Concrètement, une recyclerie sportive, ça fonctionne comment ?
Le concept, c'est de récupérer des vêtements de sport, accessoires de sport, équipements. Donc ça, c'est la première phase. Donc ça peut être par collecte, ça peut être par donation. Ça peut être même avec les professionnels, donc des gros groupes comme Decathlon, Intersport, etc. Et nous, en contrepartie, au lieu que ces vêtements ou accessoires soient jetés à la poubelle, qu'ils soient réutilisés, qu'on leur donne une seconde vie. Après, la deuxième phase, c'est la valorisation. Donc c'est réparer ce qui est cassé. Pourquoi pas transformer ? Donc nous, le but, c'est un peu ça, c'est un peu de centraliser un peu les donations. Et après, de donner un petit peu à toutes les autres assos qui sont autour de nous du matériel, qui derrière, ils les revalorisent à leur manière.
Donc, par exemple, j'ai des affaires de sport chez moi, j'ai envie de vous les donner. Alors déjà, est-ce que vous récupérez tout ? Est-ce que, par exemple, des chaussures qui sont usées ou alors en fin de vie, on peut vous les donner ?
Donc nous, au départ, on a insisté sur que les affaires soient en bon état, justement parce qu'on n'a pas encore trop pu développer le côté revalorisation. Mais à terme, c'est l'objectif. Oui, on peut récupérer à peu près tout, mais l'idée de départ, c'est quand même de récupérer des affaires en bon état, les revendre à prix solidaire pour que ça profite à un maximum de monde, donner une seconde vie à des vêtements qui soient quand même en bon état, mais que les personnes ne vont pas forcément utiliser, ou en tout cas plus utiliser. Après, comment les donner ? Donc on fonctionne pour l'instant sur un système de collecte et donation. À terme, on aimerait bien mettre en place des box, un peu comme le fait Tremplin. Avoir des lieux de collecte constants, que ça puisse un petit peu alimenter la collecte. Et donc, du coup, le magasin, s'il y en a un, et la revente.
Une collecte sera prochainement organisée à Bourg-en-Bresse. Un partenariat est aussi en discussion avec le club de la JL Bourg et le groupe Emmaüs. Pour être au courant des dernières actualités, vous pouvez suivre la page Facebook et Instagram de Passe et Va.
C'est le retour des terrasses en musique.
Ce dispositif de la mairie propose une aide financière aux commerçants qui veulent organiser des concerts. Il avait été mis en place l'an dernier déjà pour pallier l'annulation de la fête de la musique et c'est jusqu'au 31 août. Et la mairie a aussi annoncé qu'elle voulait décaler la fête de la musique au 10 septembre en espérant que les contraintes sanitaires le permettent cette fois.
2 minutes, une actu.
Aujourd'hui, Alice, tu nous parles du lien entre les JO et notre département. Bonjour Alice.
Bonjour Audrey, bonjour à tous. Alors, connaissez-vous le point commun entre Julien Beneteau, Marcel Rosier, Christophe Lemaître, Laure et Florent Manaudou?
Non. Donc Alice, c'est à toi.
Eh bien, ils ont tous été médaillés aux Jeux Olympiques et ont tous un lien avec le département de l'Ain. Julien Beneteau, tennisman professionnel, est né à Bourg-en-Bresse. Il atteint à l'apogée de sa carrière la 25e place au classement ATP qui répertorie les meilleurs joueurs de tennis mondiaux. En 2012, il remporte une médaille de bronze en double avec Richard Gasquet au JO de Londres. Il met fin à sa carrière professionnelle en 2018 et aujourd'hui il est le capitaine de la Fed Cup, l'équipe de France féminine. En équitation, direction Saint-Étienne sur Chalaronne avec Marcel Rosier. Ce cavalier, spécialiste du saut d'obstacles, a été plusieurs fois primé au JO, aux épreuves par équipe. Il remporta par exemple la médaille d'argent à Mexico en 1968 et 8 ans plus tard la médaille d'or à Montréal.
Et c'est à Belley que Christophe Lemaître fait ses débuts en athlétisme.
Oui, le sprinter, parfois surnommé le TGV de Culoz, du nom de la ville indinoise où il a passé une partie de son enfance. Il est détenteur du record de France du 200 mètres et du record d'Europe du relais 4x200. Aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, avec ses coéquipiers du relais, il remporte la médaille de bronze. Et à Rio en 2016, il décroche sa seconde médaille de bronze sur l'épreuve du 200 mètres.
Les deux nageurs et frères et sœurs, Laure et Florent Manaudou, ont eux un lien avec le club de natation d'Ambérieu-en-Bugey.
Laure y débute sa carrière professionnelle, tout comme Florent, entraîné par leurs frères aînés. Laure Manaudou gagnera une médaille d'or, une d'argent et une de bronze au JO d'Athènes en 2004, sur les épreuves du 400 et 800 mètres nage libre et sur le 100 mètres d'eau. Florent, de son côté, a remporté une médaille d'or à Londres et deux d'argent à Rio. Ce dernier est d'ailleurs sélectionné pour le 50 mètres au JO de Tokyo, tout comme la Viriati Chloé Jacquet en rugby à 7, ou le Burgien Florian Grenbo en cyclisme sur piste. Écoutez son interview dans quelques instants. Radio B l'a reçue. L'Ain, terre de champion, c'est prometteur pour les Jeux de Tokyo qui débutent dans 31 jours.
Merci Alice.
L'invité de Radio B.
Alain Rude, bonjour.
Bonjour.
Alain Rude, amoureux du vélo, bénévole de Radio B, votre chronique Le nez dans le guidon, c'est le premier vendredi du mois, à réécouter sur notre site radio-b.fr. Alors Alain, avant de retrouver le cycliste Florian Grenbo, que vous connaissez bien, qui mieux que vous pour nous le présenter ?
Dès 2 ans, couvé par son grand-père, il est capable de faire du vélo sans les roulettes. À 5 ans, sa mère lui prend sa première licence à l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse. Florian progresse à vue d'œil et ses éducateurs décèlent en lui des qualités de puissance de sprinter. Pris en main par Didier Buellet, président de club, il s'oriente vers la piste. Le vélo, ce n'est pas que la route, et découvre le vélodrome de Genève. Sa progression est constante, rapide, et très vite il se fait remarquer au niveau de la région Rhône-Alpes. Il remporte 5 titres chez les minimes avant de poursuivre au niveau des cadets.
Et en 2016, première consécration.
Il remporte le titre de champion de France. La même année, il est aussi sacré champion de France de vitesse par équipe. Avec les juniors, il est surclassé. Avec ses équipiers, il conserve ce titre en 2017. Il reste fidèle à l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse et coaché aujourd'hui par Yann Richard, le conseiller technique départemental. 2018, échelon supérieur. En Suisse, au siège de l'Union cycliste internationale. Associé à ses potes Vincent Hillon et Titouan Renvoisé, il remporte le titre mondial, champion du monde de vitesse par équipe junior. Une semaine plus tard, au même endroit, les championnats d'Europe. Deuxième de la vitesse individuelle, vainqueur du Kérin, il remporte le titre en vitesse par équipe surclassé en espoir. Dans la foulée, il rejoint le pôle olympique de la Fédération française de cyclisme à Saint-Quentin en Yvelines. L'apprentissage se poursuit. Malgré les débuts de la pandémie, il progresse encore. En janvier 2020, Florian remporte sa première victoire en élite, chez les grands, en Coupe du Monde, au Canada. 100 fois sur le métier, il remet son ouvrage et gagne sa place au sein de la sélection française pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.
Merci beaucoup Alain. Alain, que vous retrouverez sur nos ondes le 2 juillet à 7h30, 8h30 et 12h30 dans le nez, dans le guidon, la dernière de la saison. Soyez à l'écoute, elle sera dédiée au Tour de l'Ain cadet. La cérémonie d'ouverture est dans 1 mois à Tokyo. Repoussée à cause de l'épidémie de Covid, les Jeux Olympiques d'été se dérouleront du 23 juillet au 8 août. Un Burgien y sera, il a 20 ans et ce sera sa première participation. Vice-champion d'Europe de cyclisme de vitesse et gagnant avec l'équipe de France de cyclisme de la Coupe du Monde en janvier 2020 au Canada. Florian Grangbeau, bonjour.
Bonjour.
Merci de faire une étape par Radio B. Alors Florian, comment tout a commencé avec le vélo ?
Mon grand-père m'a appris à faire du vélo à l'âge de 2 ans. Donc j'ai enlevé les petites roulettes à partir de ce moment-là. Et comme on dit dans le jargon, j'avais le cul collé sur la selle. Et du coup, ma maman m'a pris ma première licence à l'EC Bourg-en-Bresse à l'âge de 5 ans.
Et donc, pourquoi la piste ?
La piste, c'est le condensé des 10 derniers kilomètres qu'on peut avoir sur route. Donc, sensation de vitesse, frottement avec les autres, les coups de casque, c'est vraiment nerveux. Donc, c'est vraiment ces petits éléments qui m'intéressent et qui me font vibrer. Après, j'ai découvert ça à l'âge de 13 ans, à Genève, grâce à mon ancien entraîneur Didier Buellet, et président de club.
Alors, il faut préciser, tu disais à Genève, parce que dans l'Ain, il n'y a pas de piste, en fait, pour s'entraîner. Si tu peux nous expliquer.
Alors, tout à fait, dans l'Ain, il n'y a pas de piste, et il n'y a pas de piste couverte dans la région Rhône-Alpes. Donc, Genève, c'est le seul endroit où il y a une piste couverte en bois, et ça permet justement de nous entraîner et de pouvoir aussi découvrir la piste.
Mais il y a eu aussi quelques entraînements qui ont été faits sur des routes.
Alors ouais, bon, je sais pas si on a trop le droit de le dire, mais on a fait.
Il y a prescription.
Il y a prescription. Mais on a fait des entraînements sur route, c'est-à-dire, faut savoir que le vélo de piste n'a pas de frein et c'est un pignon fixe, donc on s'arrête qu'à la force de ses jambes. Et là, on s'est entraîné sur route ouverte. Faut pas le dire.
Ok, chut. Alors Florian, comment tu te sens à un mois du début des jeux ?
Alors je me sens bien. Déjà c'est un bon point. De la bonne pression, du bon stress, vraiment hâte de découvrir tout ça. Je pense que ça va être une belle expérience et qu'il y a des choses à aller chercher, donc c'est vraiment excitant.
Alors si tu veux nous expliquer, Florian, en quoi consiste l'épreuve à laquelle tu vas participer au JO ?
Alors moi, c'est la vitesse par équipe. Alors pour donner quelques chiffres, 3 athlètes, 3 tours, 750 mètres. Donc c'est vraiment l'équipe qui fera le meilleur temps, donc c'est en relais avec les 3 athlètes.
Donc 3 athlètes en même temps, et toi quel sera ton rôle ?
Alors moi j'ai le rôle de démarreur, donc premier homme, celui qui va lancer l'équipe, donc qui va lancer l'équipe de la vitesse 0 à la vitesse maximale le plus rapidement possible.
Alors Alain Rude, donc qui s'occupe de la chronique Le Nez dans le Guidon, passionné de vélo, amoureux du vélo. Pas comment on peut te présenter, Alain. Merci d'être là pour interviewer avec moi Florian Grangbeau. Donc maintenant, c'est à toi.
Oui, merci, bonjour. Il y a quelques semaines à peine, c'était le soir du mercredi 26 mai, était officialisée ta sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Florian, ici à Bourg, on est quelques-uns à avoir été envahis par une immense émotion. J'ai croisé le regard humide de tes premiers entraîneurs, Didier Buellet et Yann Richard. Quant à toi, Florian, quelle a été ta réaction ?
Alors, c'était un soulagement parce qu'on a vécu une période de test intense. C'est-à-dire que pendant tout le début d'année, on était sous une pression monstre. Donc, soulagement déjà, premier élément. Et aussi un sentiment d'accomplissement parce que l'objectif que je me suis fixé depuis que je fais du haut niveau, c'est d'aller chercher la plus belle des médailles. Donc, enfin pouvoir goûter à ce que c'est des Jeux Olympiques, donc c'est vraiment appréciable.
Et l'annonce de la retraite de Grégory Bouger, c'est un monument du cycliste sur piste, hein, 9 fois champion du monde, et on va pas faire son palmarès. Donc Greg a décidé d'arrêter le vélo. À ce moment-là, est-ce que ça a provoqué un déclic pour toi, en te disant « eh ben, je peux bien participer au JO »
Alors même s'il y avait Greg, je pense que j'aurais quand même gardé cette idée de pouvoir aller sur les Jeux de Tokyo. L'arrêt de Greg, ça a mis un petit bond en avant par rapport à tout ça. Surtout qu'on a pu bien discuter ensemble. C'est un mec qui transmet, c'est aussi un ami. Donc c'est mon idole, c'est grâce à lui que aussi j'ai découvert la piste. Donc non, je suis vraiment content de pouvoir échanger avec lui. Et oui, ça a mis quand même un petit bond en avant.
Oui, puis donc cette période a été particulière. Donc avant cette annonce là de ta sélection, la crise sanitaire, tout ça, comment as-tu vécu cette période ?
Alors, paradoxalement, je l'ai bien vécu. C'est-à-dire que pendant le premier confinement, j'ai pu me ressourcer à la maison. Ça, c'est le premier point. J'ai pu être avec ma famille, avec ma petite sœur et ma maman, et je trouve que c'est vraiment important. Pour moi, la famille, c'est un des piliers fondamentaux d'une bonne construction. Donc, de ce côté-là, c'était vraiment cool. Après, ça m'a permis de travailler vraiment profondément toutes mes qualités de force et revoir mes points faibles. Parce que vu qu'on n'avait pas de compétition, au final, on n'avait pas de pic de forme à faire. Donc, c'était vraiment justement cool de pouvoir vraiment travailler et encore travailler. Je pense que c'était vraiment le mot de toute cette période. Et aujourd'hui, le travail rapporte ses fruits.
Voilà, parce que j'allais dire, quand on est privé de compétition, on manque de repères. Évidemment, mais en fait, en contrepartie...
Évidemment, on manque de repères parce qu'on ne sait pas ce que les autres nations deviennent, quels sont les temps qu'ils font. Bon, on a fait quelques petites courses en catimini, mais il ne faut pas trop le dire, ça aussi. Ça a été sorti dans l'équipe. Mais ouais, on manque de repères, mais d'un autre côté, on a pu vraiment travailler, donc c'était vraiment plutôt positif.
Allez, puis pour revenir, non pas sur le terrain, mais sur la piste... Le poste de démarreur est primordial en vitesse par équipe. Le gars n'a pas le droit de se rater, car de lui dépend grandement le résultat de l'équipe. Je sais que tu devrais être un peu modeste, mais j'ai encore en souvenir le Mondial Junior 2018. C'est toi qui avais lancé et c'est toi qui avais assuré.
Alors évidemment, on n'a pas le droit de se louper, parce qu'en fait, on est le seul poste... de qui nous, on dépend de personne, mais on fait dépendre toute l'équipe. Donc c'est vrai qu'on ne doit pas se louper. Faut avoir un très bon temps de réaction, on parle en millième de seconde, donc oui, c'est sûr qu'il faut pas se louper et qu'il est quand même important.
Oui, puis tu es très régulier hein, en réalisant des temps qui sont nettement inférieurs aux 17 secondes et demie hein, tu tournes à peu près en 17 secondes 360, 350 millième hein, ça te situe au sommet mondial.
Ouais, c'est ça, c'est des temps qui permettent, c'est des temps qu'on a réalisés en test, donc c'est pas encore en compétition, donc c'est pas encore la même ambiance, la même aura, c'est pas du tout encore pareil, donc j'espère que sur les jeux, les temps vont encore descendre, mais ces temps-là, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été réalisés en équipe de France, j'ai pour souvenir les championnats du monde de Berlin en 2020 où Grégory Bogé a fait 17-37, donc j'ai réussi à réaliser 17-36 en test, donc maintenant plus qu'à voir ce que ça va donner sur une vraie compétition.
Oui, parce qu'avec la compétition, les performances sont forcément meilleures.
Voilà, les performances sont forcément meilleures, mais c'est un tout, c'est-à-dire que la piste elle est chauffée, les conditions sont meilleures, parce qu'on dépend beaucoup des conditions atmosphériques aussi sur la piste, donc voilà.
Et puis faire équipe avec Ryan Elal, que tu connais depuis 8-10 ans, est-ce que ça donne plus confiance encore ?
Ça donne plus confiance parce que c'est une histoire que je partage avec mon pote. Alors on a toujours été en petite concurrence quand on était dans un niveau régional, parce que lui vient du côté de l'Isère. Donc ça fait plaisir de pouvoir avoir une histoire avec son pote. On fait du vélo tous les deux, on kiffe et on va au sommet de notre art, entre guillemets.
Et on ne peut pas parler à Bourg-en-Bresse de cycliste sur piste sans évoquer Daniel Morellan. Dans un coin de ta tête, Flo, penses-tu, copier sinon son parcours, du moins ses débuts olympiques hein, déjà à Tokyo en 1964, Daniel Morellan ramena une médaille de bronze 4 ans avant plus tard de se parer d'or.
Et oui, alors en plus pour la petite anecdote, l'année dernière lors de la Roger Pinjon, j'ai pu pas mal discuter avec lui et il me fait « Mais Flo, en 2024 tu auras quel âge ?» Je lui fais 24 ans, pourquoi ?« Bah tu sais, ma première médaille d'or, je l'ai eu à 24 ans. » Je lui fais « Bon bah, on va essayer alors.
» Bon, je me demande si la pandémie n'a pas été un mal pour un bien. La participation aux prochains Jeux Olympiques t'apportera une expérience plus grande encore et ça va décupler ta motivation pour Paris 2024.
Ouais, alors Paris, ça va être encore une autre Olympiade. Donc déjà, il faut rester focus sur la première qui est Tokyo. Mais faut pas oublier que Paris, ça va être celle du sport français. Ça va être aussi le renouveau. Il y aura, enfin, on l'espère, plus cette pandémie. Ça va être la fête du sport, mais la vraie fête du sport, quoi.
Et puis il y aura plusieurs quarts de l'école de cyclistes de Bourg-en-Bresse qui pourront venir.
Voilà, c'est ça. Être supporté à la maison, ça va être vraiment cool. Faut pas oublier qu'en 2022, il y a les championnats du monde à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est aussi ça qui va être intéressant. Donc voilà.
Donc, comme tu l'as dit, Florian, on va se concentrer déjà sur les Jeux de Tokyo. Alors, quel est le programme des semaines à venir ?
Ouais, bah, je suis à Bourg de 3 jours. Après, je reviens sur Saint-Quentin-en-Yvelines. On s'entraîne jusqu'à fin juin. Et puis, début juillet, on part peaufiner tous les derniers détails au soleil de hier, à la Mecque du vélo français.
Et donc, ensuite, la première épreuve, elle est prévue quand pour toi ?
Alors la première épreuve, elle est prévue, du coup moi je fais que la vitesse par équipe, donc c'est prévu le 3 août si je dis pas de bêtises. Donc après j'ai pas encore les horaires et il y a un décalage de plus 7 heures au Japon.
Donc oui, le mardi 3 août, donc ça va se passer sur une journée en fait, ton épreuve.
Voilà, alors ça se déroule sur une journée, donc la compétition c'est d'abord une qualification, donc on qualifie les 8 meilleures équipes. Après, on établit un tableau de match avec un premier tour. Et lors de ce premier tour, on fait le tableau des finales. Et après, en fait, ça se déroule sur 3 tours.
Là, on pourrait, pour terminer, si on peut dire un peu quelle équipe ce serait un peu les principales concurrentes à celle de la France.
Alors, les principaux concurrents sont les Hollandais. Les Anglais qui ont toujours le titre olympique depuis 2012. Et après, on peut penser aux Néo-Zélandais et puis aux Allemands et aux Australiens.
Florian, rendez-vous donc au retour des Jeux Olympiques pour avoir une expérience et j'espère avec une belle médaille autour du cou.
Bah, en tout cas, c'est l'objectif.
Bon, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Profite bien, prends-en plein les yeux. Alain Rude, merci.
Merci.
Et à très bientôt alors.
À très bientôt.
Une interview enregistrée le 11 juin, Florian Grangbo s'entraîne donc en ce moment à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
Il y a une semaine, l'AJL jouait son dernier match de la saison à Equinox contre Strasbourg. Une salle remplie à 65% de sa capacité.
La balle est revenue à l'AJL, je veux entendre toute la salle. Clap, 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 clap. Entre en jeu. Zekoma est-il en place pour Benitez ?
Les claps, les cris, les ovations, c'est le retour des spectateurs à Equinox. Ils étaient plus de 2000 ce soir pour le match contre Strasbourg.
Bon, ça vous fait quoi de revenir à Equinox ?
Un grand plaisir.
Après, moi, je suis pas fidèle supporter. Mais je suis très contente de voir plein de monde au stade. Et voilà, c'est la fête, c'est bien.
Beaucoup de bien de retrouver enfin un petit peu la liberté de pouvoir réintégrer les salles.
Ça fait du bien de revoir les joueurs, même si je les connais plus.
Ah ouais.
Genre il n'y en a plus un que je connais. Voilà, c'était il y a longtemps que je venais. Mais voilà.
Et l'ambiance, ça fait plaisir à retrouver parce que avec le confinement, on était tout seul chez nous et de revoir du monde, ça fait plaisir. Revoir les joueurs, l'ambiance, c'est cool.
Alors qu'est-ce que ça te fait de revenir ?
Bah je suis content, ça fait du bien. Ça donne des frissons et c'est sympa. Ça a manqué de regarder la télé, c'est bien sympa, mais voilà, c'est mieux en vrai, quoi.
Bah, on a un peu perdu nos habitudes d'encouragement, donc faut que ça revienne, mais ça faisait longtemps que ça nous manquait, donc on est content de revenir et puis de revoir de l'ambiance et les joueurs.
Ça fait plaisir de revenir et surtout trinquer et revoir un peu ses potes, voilà. Et on voit du monde et l'ambiance aussi dans la salle. Mais là, on revit.
Du grand bonheur. De voir du monde et de revoir notre sport préféré.
Et qu'est-ce qui vous a le plus manqué ?
Ce qui nous a le plus manqué, c'est de les voir jouer pour de vrai et de retrouver
l'ambiance
festive qu'il y a toujours ici.
Et vous avez pensé quoi de cette saison alors ?
Extraordinaire ! Pourvu que ce soit la même l'année prochaine et qu'on puisse venir tout le temps.
Très fort, une très bonne équipe. On y est attaché et...
et ça va s'arrêter.
Malgré les encouragements de son public, emmené par le tambour des Diablotins, la JL Bourg s'est inclinée 73 à 81 contre Strasbourg. À la fin du match, on retrouve Jean-Michel Voiteau, président des Diablotins, le groupe de supporters de la JL.
On est content, on a vu deux super matchs là, et là, on finit, bon, on n'a pas fini. On va essayer d'aller gagner à Strasbourg, mais bon, c'est très, très compliqué. On n'aime pas ces fins de match comme ça quand on perd, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport.
Et donc ça fait quoi d'être revenu
beaucoup
avec
de, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Je sais que moi, pendant deux jours, j'étais fatigué tellement. Soit c'était le stress, soit c'était l'émotion de la salle, de retrouver tous les bénévoles, les supporters, tous les gens qui gravitent autour de ce club. Et quand on voit la saison qu'on a fait cette année, c'est exceptionnel. Je joue la Coupe d'Europe, on s'est qualifié. On finit soit 4, soit 5. Je trouve ça magnifique. Et en tant que président et supporter, et au nom de tous les supporters, je félicite tout le club de la JL pour le travail qu'ils font. Quand on voit l'ambiance d'aujourd'hui, là, bon, il y a la défaite à la fin, mais vous allez voir la cérémonie, après ils vont oublier. Ça va être un hommage à Savo, qui... Je suis un peu ému quand même. À Savo, que j'apprécie beaucoup. À Zach Picoque, parce qu'on ne sait pas trop s'il reste à l'année prochaine. Il y a toute cette équipe qui mérite une grande ovation et qui mérite un tonnerre d'applaudissements malgré la défaite.
À la fin de ce match, une cérémonie a eu lieu pour dire adieu au coach Savo Vuzevic et remercier les joueurs et le staff. Il y a même eu une annonce, une nouvelle mascotte va être créée à l'effigie d'un joueur. Et le maire de Bourg-en-Bresse a d'ailleurs donné la médaille de la ville à Zachary Picoque et à Savo Vuzevic, l'ancien coach. La JL joue son quart de finale ce 21 juin à l'extérieur contre Monaco. L'équipe bressane est à la 5e place du classement de la Jeep Elite. Et c'est officiel, elle participera à l'Eurocoupe pour la 2e fois la saison prochaine.
Et une autre actu pour Pierre Pelos.
L'intérieur de l'équipe bressane, Pierre Pelos, a été recruté par l'équipe de France de basketball comme partenaire d'entraînement. Il se rendra à Pau du 1er au 6 juillet pour aider les Bleus dans leur préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
Radio B.
Radio B.
Le Stade Verchères a aussi retrouvé son public et quel retour pour les spectateurs. En demi-finale, les Violets se sont imposés et ont gagné leur billet pour la Pro D2. Quelques jours plus tard, face à Narbonne, ils ont remporté le championnat de national. Bilan de la saison avec Johan Boulanger, entraîneur principal chargé des trois quarts.
Alors Johan Boulanger, champion de national, retour en Pro D2. Bon, on peut dire que tout va bien.
Oui, c'était une super fin de saison qu'on a vécue. Pas simple au départ parce qu'on ne savait pas trop où on allait avec le Covid. L'an passé, elle avait été interrompue. Donc on n'avait pas pu jouer nos chances pour remonter l'année dernière. Là, cette saison, on a réussi à finir le championnat. On a vécu des moments exceptionnels en termes d'émotion.
Comment vont les joueurs après ces deux saisons particulières? Comment ils vont psychologiquement?
Je pense qu'ils étaient très éprouvés à la fin de cette saison. Mine de rien, les saisons, elles passent pour eux aussi. Et donc, c'était assez stressant de savoir que on pouvait pas jouer la montée l'année dernière. Donc, c'était un peu une année pour rien, en fait, pour eux. Et quand t'as 28, 29 ans, tu vois les saisons défiler. Donc, voilà, je pense que c'était assez stressant pour tout le monde et notamment pour les joueurs. Donc, voilà, là, ils sont très heureux et très, très contents d'avoir pu jouer jusqu'au bout et d'avoir pu jouer sur le terrain cette montée. Et puis ils ont aussi l'impression d'avoir accompli un petit peu tout ce qu'on voulait faire ensemble.
C'est votre 4e montée en Pro D2, donc 3 comme entraîneur. Comment abordez-vous ces retrouvailles avec ce championnat?
C'est un défi assez excitant parce qu'on est, on a, on n'a pas réussi à maintenir le club. En 2018, même si ça s'est joué à pas grand-chose à la fin, c'était assez historique de descendre avec 60 points, avec autant de victoires, on le sait, mais il nous en manquait quand même. Donc je crois que pendant ces 2 ans, là, on a réussi à renforcer notre effectif. Maintenant, voilà, il faut un certain état d'esprit pour arriver à être performant en Pro D2. Et aussi, il faudra beaucoup bosser sur l'efficacité de notre jeu, parce que, mine de rien, il faut être très performant rugbystiquement pour arriver à rester en Pro D2.
Mariano Taverna succède à Thomas Chauveau comme entraîneur des Avants. Il arrive de Aubenas-Valls, le club ardéchois. Quelles sont les prochaines étapes ?
C'était un peu inattendu pour nous, le départ de Thomas en fin de saison. Voilà, après, il a une super opportunité de rejoindre le top 14 et cette équipe de Pau. Donc, on est très content pour lui. Voilà, ça nous a demandé du coup une adaptation, encore une fois, de restructurer notre staff en remplaçant Thomas par un entraîneur des Avants, spécialiste du jeu d'avant. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il faut beaucoup d'énergie, pour gérer un groupe de 40, il faut être assez nombreux sur le terrain. Donc voilà, on va essayer de renforcer aussi ce staff par un entraîneur des trois quarts. On a plusieurs pistes de réflexion par rapport à ça. Maintenant, un staff aussi, c'est un staff médical, c'est aussi un staff de préparation physique. Donc il y a beaucoup de personnes dans ce staff qui vont tout faire aussi pour qu'on puisse fonctionner du mieux possible.
Johan Boulanger, entraîneur principal chargé des trois quarts de l'USBPA. Les Violets reprennent bientôt les entraînements le 5 juillet. 2 matchs amicaux sont prévus les 12 et 19 août. Et le championnat de Pro D2 commence le 27 août. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
On se retrouve lundi prochain à 18h. Bonne semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite ?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.